Et commençons donc avec Voyage of Time de Terrence Malick. Voilà, film d'abord décrit comme un documentaire, alors j'essaierai d'expliquer pourquoi ça n'en est absolument pas un, mais en tout cas Terrence Malick essaye dans ce film de retracer l'histoire de la vie, qui est aussi quelque part l'histoire de l'humanité, en partant depuis le début de la création de l'univers jusqu'à arriver, jusqu'à l'établissement de toute notre vie humaine actuelle, notre existence. Deux petites précisions tout d'abord, une qui concerne cette émission qui aurait dû être enregistrée avec Anna qui n'a finalement pas pu être sur l'enregistrement à cause d'un problème technique, et puis autre chose, là ça concerne directement le film. Film très particulier, déjà parce qu'il a été projeté sous une forme extrêmement originale, c'est-à-dire qu'il n'a été projeté qu'à une seule heure, un seul jour dans la France entière. Un film qui, du coup, se voyait un petit peu comme un spectacle. Il y avait une dimension d'événement, le film était projeté à un jour précis. Et même si cela est sans doute dû à des contraintes de distribution, ça mettait tout de suite une ambiance extrêmement particulière dans ce film où les gens s'étaient véritablement déplacés pour aller le voir. Un film à l'ambiance très très particulière, en effet. Alors, de toute façon, chez Terrence Malick, on s'y attend, mais même là, on atteint un nouveau sommet dans la filmographie du réalisateur. On a lu dans la critique que ça pouvait être un petit peu comme The Tree of Life, sans scénario, et il y a un petit peu de ça. Je sais pas si vous vous souvenez de notre numéro l'an dernier sur Night of Cups, mais on avait véritablement détesté ce film. Précisément parce que Terrence Malick n'allait pas jusqu'au bout de sa démarche et raccrochait encore un petit peu ce film à une espèce d'avorton de scénario qui ne menait nulle part, qui ne ressemblait à rien, et Malick faisait encore semblant qu'il y ait un scénario à ses films. Ici, il s'en est complètement débarrassé. Et il crée un rythme complètement unique dans ce film, parce que c'est un film qui n'est du coup plus une fiction, dans le sens où il n'y a aucun schéma narratif, il n'y a pas d'histoire qui soit véritablement raconté, il n'invente pas un scénario qu'il essaye de nous montrer, mais ce film n'est absolument pas documentaire non plus, et là c'est vraiment extrêmement important pour comprendre ce film. Il ne s'agit pas de nous raconter, de nous expliquer l'histoire de la vie, quand bien même le film a été très très documenté, on le voit au générique de fin. Non, il s'agit vraiment ici, pour Terrence Malick, d'exposer, à travers le matériau filmique qu'il manipule, sa philosophie, la cosmologie, la cosmogonie qui est la sienne, qui traverse toute son œuvre, et d'une certaine façon, ce film, comme le disait Anna, subsume toute son œuvre, toute sa vision, parce que Malick nous montre, à travers cette histoire du temps, tout ce qui a traversé, toutes les interrogations qui ont traversé ses œuvres, en particulier les dernières, et toute cette espèce de panthéisme qui traverse son œuvre et qui caractérise son rapport à l'univers tout entier. Et quel réalisateur parle plus du cosmos que Terrence Malick d'une certaine façon ? J'emploie des termes qui tendent un petit peu vers la religion, hein, le panthéisme, mais précisément, ce film est articulé comme une prière. Il s'adresse à une divinité par la voix de Cate Blanchett, qui, à plusieurs reprises, apostrophe « mother », on ne sait pas exactement qui cette mère est, mais en tout cas, Terrence Malick adresse vraiment ce film comme une espèce de prière, de louange, d'incantation à une nature, un temps magnifié à travers ce film, donc. Une mère qui fait preuve d'un amour incroyable dans la beauté qu'elle prodigue tout simplement sur le monde, un beauté qui passe par la beauté de ses images, j'y reviendrai. Un amour qui est contrebalancé par une immense cruauté qui donne lieu à des scènes d'un dépouillement vraiment bouleversant. Je pense en particulier à cette scène où l'on est sous la mer et on voit un poisson traverser l'écran, puis on se rend compte que tout un morceau de sa chair a été arraché par une loutre. Et on a ce poisson qui continue à avancer, mais est sur le point de mourir. Et cette image est véritablement bouleversante avec ce silence et puis la beauté, évidemment, des images filmées par Malick. Des images dans ce genre-là, il y en a beaucoup, et évidemment, les images sont splendides, peut-être encore plus splendides qu'elles ne l'avaient jamais été chez Malick. On parle souvent d'une esthétique National Geographic pour parler de belles images, mais là, on est bien au-delà de ça, c'est véritablement... Dire que chaque plan est un tableau et un petit peu un lieu commun, mais là on a vraiment quelque chose qui tient de ça. Il y a un travail sonore qui est extrêmement important aussi. Alors, Il ne s'agit pas du tout d'être réaliste ici, hein. Une fois de plus, il n'y a pas de démarche documentaire. On a des hommes de Cro-Magnon qui sont clairement purement fantasmatiques. Et c'est vraiment, une fois de plus, de l'ordre de la prière, plus que du documentaire, en tout cas au moins du poème, de l'incantation. Mais surtout dans cette esthétique, il y a un montage qui est vraiment impressionnant et un travail sur le montage qui, en fait, fait vraiment tout l'intérêt du film quand on s'y penche un peu avec des transitions extrêmement étonnantes, extrêmement travaillées d'une image à l'autre, alors certaines très spectaculaires, mais vraiment des enchaînements d'images qui tout de suite tissent une espèce de fil entre de fil qui traverserait l'univers entier et qui relierait un petit peu toute cette cosmologie, qui la relierait, eh bien, qui la relierait à nous, spectateurs. Ce fil qui tisse aussi un flux temporel, du coup, qui fait avancer toute cette dynamique du film, toutes ces images qui leur donnent du sens. Et puis, avec ce montage, il y a aussi la mise en perspective de cette beauté et de cette cruauté universelle, comme je disais, avec notre quotidien, notre temporalité, parce que soudain interviennent des images filmées, semble-t-il, à la GoPro, un procédé qui avait déjà été utilisé par Malick. Ces images interviennent et filment juste des moments de vie un petit peu partout dans le monde, et soudain on se retrouve au temps zéro après avoir été complètement hors du temps. Et de cette façon, ce cosmos finit par nous rejoindre, nous, par rejoindre l'humanité, à travers ces flashs, et puis aussi à la fin du film, puisque tout simplement on atteint le moment où l'humanité se construit, l'étape finale de cette grande histoire du temps selon Malick. Alors une humanité qui est à la fois très très belle, et puis qui est aussi complètement folle, comme le montre la première image du film, qui nous fait suivre des fous dans une ville. C'est à la fois la beauté et la folie de cette humanité, mais qui n'est finalement que le reflet de l'amour et de la cruauté de la nature, si on peut le dire comme ça, et si c'est bien à elle que Terrence Malick s'adresse. C'est là que le film est vraiment extrêmement touchant, c'est-à-dire que cette histoire du temps pourrait être complètement absurde, pourrait nous faire paraître totalement vain, mais non, justement, elle donne du sens à nos vies, et à ce titre, elle illustre très bien la filmographie de Malick. Peut-être qu'on comprend ce qu'il avait voulu dire avec Night of Cups qui justement nous paraissait si terriblement vain. Eh bien là, avec Voyage of Time, on sort de ce film avec l'impression que notre vie a sa place dans un univers, que les choses ont du sens. Et rarement, on avait vu un film qui crée autant de sens à un niveau si cosmique, pour le dire comme ça, puisque, une fois de plus, ce film tient véritablement de la prière. On peut dire que Terrence Malick tente de nous rapprocher d'une forme de divinité et il semblerait qu'il y soit arrivé. En tout cas, on sort de ce film un petit peu en état de grâce. Et malheureusement, vous n'aurez sans doute pas l'occasion de le revoir très souvent en salle, puisque le film, comme je vous l'ai dit, n'a été projeté qu'une seule fois, mais j'espère que vous aurez l'occasion, chers auditeurs, si vous n'avez pas pu le voir, eh bien de voir ce film un jour. En tout cas, si vous en avez l'occasion, ne manquez pas ça. C'est vraiment un excellent moment à passer. Et tout de suite, je passe la main à Anastasia qui va nous parler de Saint-Georges de Marco Martins dans cette deuxième chronique de l'émission.